L'argenté, 100 ans d'histoire à Bayonne, tel est le thème de la conférence que nous vous proposons de suivre. Conférence présentée par Dominique Iribarin, professeur d'histoire à la retraite et ancien directeur de l'établissement. Dans cette seconde partie, nous reprenons l'histoire de l'école L'Argenté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous écoutons Dominique Iribarin.
Parce qu'après la guerre, quand on reprend les activités, d'abord il faut savoir que l'effectif va diminuer à la fin de la guerre. Curieusement, il y a moins d'élèves. Alors, ce n'est pas tout à fait curieusement, tout simplement, c'est que la crise économique qui suit la Seconde Guerre mondiale est sévère. Et sachez que les tickets de rationnement ne sont supprimés qu'en 1949. Donc, les familles n'ont plus l'argent nécessaire pour envoyer des élèves là. Et, tout simplement, nous avons un établissement qui a survécu à la guerre, mais qui, du coup, voit ses élèves disparaître. Pour autant, les sœurs ne se posent plus la question de rester ou de partir. Les lois autorisant les congrégations enseignantes ne sont pas abolies, les lois de Vichy, et sont toujours en vigueur d'ailleurs aujourd'hui. Donc les sœurs ne sont plus menacées d'expulsion, donc elles restent. Et moi c'est extraordinaire quand on regarde l'histoire, le premier bâtiment qu'elles vont construire, c'est pas des classes, c'est pas l'internat, une fois que tout a été restauré dans le parc qui avait été passablement défoncé, elles reprennent la chapelle. Alors on est un peu étonné, nous sommes en 1950, il n'y a pas 3 sous, et pourtant on refait la chapelle. Et le mot d'ordre, c'est, pour l'argent, Saint-Joseph y pourvoira, c'est encore lui qui est là, et c'est assez curieux. Alors la chapelle est construite et reconstruite, parce qu'elle existait déjà, mais c'était une chapelle qui était très incommode, elle était toute en longueur, et surtout, cette chapelle avait, au niveau liturgique, l'inconvénient de séparer complètement les sœurs de cœur des sœurs converses. La séparation était vraiment trop marquée et on commence à en prendre conscience. Donc la nouvelle chapelle qui est construite, elle est construite par un architecte qui s'appelle M. Batty et elle va avoir comme effet, d'abord elle est totalement différente, elle est large, beaucoup plus large, le cœur est beaucoup plus ouvert et il permet à toutes les sœurs d'être ensemble. Rappelons-nous, les mères, ce sont toutes celles que vous voyez sur la photo, imposant quand même, hein. Mais ça n'est qu'une petite fraction de la communauté, puisque toutes les sœurs, les lingères, les infirmières, les jardinières, les repasseuses, elles sont toutes en dehors, elles n'ont pas le même habit, elles sont en dehors. Cette communauté, comme la plupart des communautés, est profondément inégalitaire, parce qu'elle n'a pas évolué. À partir de là, il y a un processus qui s'enclenche, et ce processus qui s'enclenche va s'étaler pratiquement, on va dire, aux années 70, ça va durer plus de 20 ans, et le titre de maire, d'ailleurs, disparaîtra tout simplement. L'égalité sera enfin devenue une réalité, mais je ne vais pas dire à quel prix, parce que dans le livre qui sera publié, il y a un récit d'une sœur, pas d'une mère, de la vie d'une sœur, qui est tout à fait intéressant au niveau sociologique, tout simplement, parce qu'il montre le clivage qui se fait et comment ces sœurs, issues de milieux souvent paysans, souvent durs au travail, vont serrer les dents parce que leur vocation va prendre le dessus sur ces conditions dans lesquelles on les soumet. Parce qu'à un moment donné, on peut dire ça comme ça, la différence est quand même très très forte. Donc si vous regardez cette photo, c'est un bloc. C'est impressionnant. Un bloc, sur cette photo, hormis quelques spécialistes, difficile de reconnaître des sœurs, il y en a pourtant deux qui vont jouer un rôle important pendant la période. C'est Mère Gertrude qui est au milieu en bas, c'est la plus grande, c'est pas compliqué. Et vous avez, en partant du haut, la troisième sur la gauche, une sœur qui va cette fois-ci mener les destinées de l'Argenté, c'est Mère Saint-Jacques. Mère Saint-Jacques qui deviendra sœur Saint-Jacques puisqu'elle s'adaptera à ce changement. À partir donc de 1945 à 1970, s'ouvre une autre période. Cette autre période, elle est marquée par l'apogée de la communauté. On arrive au maximum de sœurs que connaît l'établissement. Environ 70. Elles ne sont pas toutes sur le site, puisque les plus âgées sont soit dans une maison qui a été achetée à Bonloc. Pendant la guerre, elles sont allées plus loin, sont allées au château de Susse pour mettre certaines sœurs. Donc là, ce bloc de religieuses qui est là, il va nous intéresser tout simplement parce que il va être très cohérent et il va avoir une continuité d'action pédagogique qui va façonner l'image de l'Argenté. L'image de l'Argenté que l'on a est issue de ce groupe de sœurs qui est là. Le rayonnement de l'Argenté, là, il s'affirme puisque l'évêque de Bayonne leur demande, en 1950-53, de prendre la direction de l'établissement Moncade à Orthès. Donc, il est prêt, vu la réputation qu'elles ont et vu la solidité de cette communauté, à les exporter, entre guillemets, à leur faire prendre en charge d'autres établissements scolaires. Elles réfléchissent longtemps, hein, la réflexion dure pratiquement 2 ans, mais ce sont des conditions matérielles qui, là aussi, les freinent. Elles préfèrent tout consacrer sur l'Argenté, ce qu'elles vont faire. Il y a un deuxième élément qui montre que l'évêque, il veut les mettre en avant, mais ça va être un peu plus compliqué. C'est qu'en 1950-55, la paroisse de Marac se crée, l'église de Marac est construite, et une école se crée. On vient chercher les sœurs pour leur demander, comment dire, d'assurer la direction pédagogique de cette école paroissiale. Elles acceptent dans un premier temps, mais les frictions avec le curé sont telles que finalement elles renoncent. Parce qu'il faut savoir à ce moment-là que les congrégations, ce sont des états dans l'état, on va dire ça en quelque sorte, ce sont vraiment des entités puissantes qui ont une aura, et on ne vient pas, faire ce qu'on veut. Et on retrouve l'opposition homme-femme, je tiens à préciser, c'est que là, le curé de Marac, il pouvait aller regarder ses ouailles, mais les élèves, il ne fallait pas qu'ils les regardent, c'était pour les sœurs. Donc voilà. Alors venons-en maintenant à l'organisation de l'école pendant cette période. La mère supérieure, donc mère Gertrude, a l'autorité morale et spirituelle. La directrice, donc elle va avoir l'autorité académique, elle est reconnue par l'académie, pas en tant que sœur, mais en tant que madame la Taillade, puisque ça sera le cas à ce moment-là. Et sœur Saint-Jacques, simplement pour situer, devient directrice à partir de 1955. Donc, elle est, avec Mère Gertrude, toute puissante, c'est-à-dire, en clair, la seule autorité qu'elle se garde d'ailleurs de suivre, c'est l'enseignement catholique, qui est structuré, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Donc ça, c'est une règle qui va être pratiquement constante dans ses choix de directrice. Puisque tout simplement, jusqu'à la loi de Bré, l'État ne peut pas voir ce qui se passe là-dedans, et l'évêque, elle veut bien lui faire confiance, mais l'enseignement catholique, en tant que structure, pas trop. Bon, voilà. Quand Mère Saint-Jacques part à la retraite en 1989, le directeur diocésain lui en fera le reproche. Nous sommes en 1989, vous voyez que les marques sont profondes et les combats ont été souvent très rudes. Dans un établissement comme les Ursulines, il n'y a qu'un homme, pratiquement, c'est l'aumônier. Et l'aumônier, il a un statut à part. C'est le père spirituel ou le père de substitution, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est le seul homme. Donc sa parole, elle va avoir un poids. Il représente Jésus-Christ, il a un rôle liturgique important, donc c'est un homme qui va être extraordinairement important, y compris pour les élèves. Souvent, il viendra tempérer le côté très abrupt de l'éducation des religieuses. On le verra tout à l'heure dans un petit exemple. Alors, cette organisation, certes, elle est d'abord, on va dire, de type religieux, mais il y a quand même une structure juridique, c'est une AEP, Association d'éducation populaire, qui existe. Il y a un président qui est un laïc, c'est un homme, qui travaille avec les sœurs, qui réfléchit avec les sœurs, qui donne des avis pédagogiques, donc il y a un partenariat qui existe. Il n'est pas simplement théorique, même s'il est discret. Et vous avez une autre entité qui très vite va jouer un rôle important dans l'Argenté, c'est l'Association des parents d'élèves. Association des parents d'élèves qui veut soutenir les sœurs, mais qui aussi va jouer un rôle ambigu, en voulant aussi garder un mode d'éducation qui n'est pas forcément celui que les sœurs veulent. Bon, ça sera un petit peu pour plus tard. Retenez aussi que l'enseignement pour les sœurs commence en maternelle et finit en terminale. Donc tout l'éventail des formations est assuré, à savoir qu'au bac, des filles dans les années 50, c'est quand même une denrée rare. Il y a très peu d'élèves, et quand on lit les bulletins annonçant les résultats au bac, c'est des cris de triomphe quand il y a 2 élèves reçus sur 5. C'est énorme, bon résultat. Et donc on a là tout à fait l'idée de l'excellence, mais l'excellence réduite à un tout petit nombre d'élèves. À savoir maintenant, c'est que je vous l'ai dit au début de mon exposé, les sœurs ne sont pas enseignantes. Elles n'ont pas un fondateur qui a élaboré une théorie pédagogique. Ce n'est pas un Jean-Baptiste de la Salle, ce n'est pas du tout un Don Bosco. Les sœurs, elles vont forger une pédagogie, on va dire, à travers le contact qu'elles ont. Et elles vont élaborer un certain nombre de lignes de force qui vont faire leur originalité. Alors, première ligne de force, c'est l'accueil de tous. L'Argentée et les Ursulines n'ont pas pour vocation de n'accueillir que les plus pauvres. Donc ça, c'est un point à savoir. L'Argentée n'a jamais dit « nous sommes là pour les plus pauvres ». Les Ursulines ont dit « nous sommes là pour chaque élève, quelle que soit sa condition, son tempérament, son contexte, connaissez-les et adaptez-vous à elles ». Donc c'est une individualisation dans l'accompagnement qui est un élément très fort. Deuxième aspect, la notion de confiance. La relation doit se nouer sur la confiance. L'éducatrice est à la fois guide, confidente, c'est à la fois la mère de substitution. Vous voyez que le mot mère, il n'est pas tout à fait neutre ni anodin. Et donc, les élèves de cette époque vont avoir, pour les sœurs, une relation qui dépasse la relation prof-élève. Cette particularité est souvent mise en avant dans l'iconographie. L'iconographie des Ursulines, c'est souvent une religieuse qui est droite, très droite. En bas, vous avez un petit enfant. La religieuse le regarde. Vous avez un regard descendant, plein d'attention et de tendresse, et un regard montant, plein de confiance de la part de l'enfant. Alors, c'est à peu près le topo que vous retrouvez partout. C'est devenu une espèce d'élément identificateur des Ursulines, cette relation qui est à la fois maternelle, mais à la fois aussi très autoritaire. On va y revenir, parce que la façon dont l'affection est vécue un petit peu change. Mais les résultats sont extraordinaires parce que les relations que les élèves entretiennent avec les sœurs dépassent largement leur présence dans l'établissement. Et dans les années 50-60, on est frappé par la force et la puissance du groupe des anciennes élèves. Les bulletins des anciennes élèves, c'est extraordinaire parce que c'est un véritable réseau de relations qui s'est mis en place. C'est une véritable, un rose-bout, en quelque sorte, de la bonne bourgeoisie catholique qui reconnaît, on sait qui est marié avec qui, on sait que le grand-père de X est décédé, on sait que la petite Y a eu un enfant, on sait que mademoiselle X est fiancée avec monsieur Y. Tout y passe, c'est extraordinaire. Alors, pour vous donner un exemple de cette continuité, de cette relation forte entre élèves et congrégation ou communauté à l'Argentée, dans les années 60, les anciennes élèves se cotisent et achètent à la communauté une 2 chevaux qu'elles vont venir offrir lors d'une cérémonie qui est haute en couleur, qui mérite le détour quand on lit les chroniques. Donc c'est tout ça pour vous dire que ça va très très bien. Par ailleurs, la qualité de l'enseignement, alors vraiment, toutes les anciennes élèves de cette époque disent que c'est vraiment du très haut niveau. Les noms circulent encore. Ah, Mère Marie-Augustin, c'était vraiment... vous voyez, tout est déconcilié de certains noms. Hop, là, ça évoque des choses. Et je pourrais en citer d'autres, mais c'est vrai que chaque fois, ça évoque chez les anciennes élèves des souvenirs tout à fait remarquables. Deux exemples pour montrer l'esprit des années 50-70. Le premier exemple, c'est un aspect qui est lié sur les à côté, mais qui va vous donner quand même un reflet des relations.
Il y avait 2 grandes fêtes, la Sainte-Ursule et la Saint-Joseph, fête de l'aumônier. Nous étions une petite troupe de théâtre dirigée par Mère Marie de l'Incarnation, un amour. Elle avait une allure très masculine et était dans la lune. Jamais elle ne nous punissait, or nous étions comme des chevaux échappés. Nous avions un répertoire très varié, nous allions des 3 sagesses du vieux Wang au Cid, en passant par un pouce bébé. Les religieuses sortaient de leur réserve leurs costumes et nous maquillaient, on adorait. Outre le théâtre, nous dansions. Mademoiselle Rousseau, la prof, nous faisait danser des rotas, des danses russes et le quadrille des lanciers. Je dois dire que les costumes et les décors étaient ravissants. Nous adorions le moment qui nous donnait donc certains privilèges. Les actrices avaient la possibilité d'échapper à certains devoirs.
Alors, ce tableau idyllique ne doit pas faire oublier qu'en réalité, cette affection, elle a comme contrepartie une discipline de fer, littéralement, avec un règlement qui ferait frémir tous les parents des années 2020, parce que c'est vraiment extraordinairement tatillon. L'élève n'existe que s'il respecte une règle, et on se demande s'il existe pour lui-même. Mais vous allez voir que les élèves sont très très délurés à cette époque-là. Ne croyez pas que les filles soient soumises, loin de là, et pas mal d'enfants du baby-boom vont éprouver assez rudement la patience des sœurs. Alors juste un tout petit exemple, vous allez voir ce que ça donne.
Mère Marie-Geneviève, dite Geneux, avec ses yeux de lynx, ne lâchait rien. Une fois, toutes les élèves de la table avaient empilé les assiettes pleines de soupe. Cela nous a valu un conseil de discipline avec un jury de religieuses conséquent et l'aumônier. Je ne me souviens plus de la punition, mais j'avais été très impressionnée.
Alors, je ne sais pas, imaginez 5 religieuses comme ça face à des petites filles de 10 ans. C'est certainement un spectacle assez intéressant. Donc, tout ça pour vous dire, c'est qu'à la fin des années 60, les enfants du baby-boom, c'est plus les enfants sages des années 50, hein, c'est plus les enfants sages, parce qu'il y a une autre raison qui est venue dès le milieu des années 50, enfin, dès 1960 précisément, commencer à faire bouger les lignes, c'est la loi de Bray. Et là, on va passer à une autre phase, parce que mai 68 à l'Argentée, c'est pratiquement un non-événement. C'est un non-événement dans la mesure où... vous voyez, il y a une élève dans le groupe de... La classe que vous avez là, c'est la classe de terminale de l'année 67-68. La terminale philo. Et donc, il y a une élève de cette classe, dont je connais le nom, mais je vais pas le mettre là, qui a servi un petit peu d'intermédiaire. Donc, elle allait voir les AG à Cassin. Et puis, si ça l'intéressait, on y allait, les élèves y allaient. Si ça ne les intéressait pas, ils n'y allaient pas. Et Mère Saint-Jacques, la directrice de l'époque, était toute... déconfite de voir que ses élèves étaient si peu réactives. Mais bon, elle dit finalement, ça s'est passé comme ça. En fait, les élèves, elles voulaient avoir leur bac et tout ce tapage extérieur les a laissés un peu de côté. N'oubliez pas que nous sommes dans un milieu très fermé, très protégé. Ceci explique en partie cela. Mais du coup, la religieuse directrice, elle était plus, plus soucieuse de les voir vivre dans le monde plutôt que de se retirer du monde. Bon, ça c'est un des paradoxes. Parce que nous arrivons maintenant... Si l'année 68 n'a pas eu d'impact direct, le début des années 70 va marquer pour l'Argentée un changement assez important. C'est l'heure des grandes mutations. Pourquoi ? D'abord, la loi de Bray fait que le public élève change. Les catégories socioprofessionnelles les plus hautes ne sont plus majoritaires, elles vont progressivement laisser la place à une classe moyenne, et on va avoir progressivement des élèves de milieux plus modestes qui vont arriver, et on va avoir progressivement un brassage. On va avoir aussi progressivement plus de tensions au niveau des relations avec les sœurs. Cette loi de Bray va avoir un autre aspect aussi, c'est que Mère Saint-Jacques, là c'est bien elle que je dois citer, va devoir petit à petit, malgré tous ses efforts, reculer et faire entrer l'Argentée, je ne vais pas dire dans la modernité, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire, mais va devoir adapter l'Argentée à des réalités qui viennent plus de l'extérieur que de l'intérieur. Donc on a une mutation qui se fait. Et surtout, un autre élément intervient, c'est l'évolution de la structure. Au début des années 60, enfin à la fin des années 60, début des années 70, l'enseignement catholique de la côte basque décide de revoir la répartition des formations sur le secteur. Il y a beaucoup d'écoles petites, dispersées, il y a beaucoup de congrégations qui subsistent, des dominicaines, etc., qui ont des petites unités pédagogiques, et ces petites unités pédagogiques ne sont plus viables. Par ailleurs, la ville prend de l'ampleur, Bayonne prend de l'ampleur, et il n'y a pas d'établissement de prestige. Le seul établissement de prestige pour le diocèse sur le Pays Basque, c'est Ustaritz, mais Ustaritz est isolé et Ustaritz est en perte de vitesse. Monseigneur Gouillon décide de créer, de faire sortir sur Bayonne un lycée d'excellence. Et il décide que ce lycée sera diocésain, bien entendu. Les hommes prennent la meilleure part, les hommes d'église, et les congrégations féminines doivent garder les miettes. Donc c'est vu comme ça, il faut le savoir. Et c'est pourtant ce qui arrive. Mère Gertrude dit « Il n'est pas question de lâcher. » Mère Saint-Jacques était plus hésitante. Et à partir du moment où Mère Gertrude, qu'on a vu tout à l'heure, pousse Mère Saint-Jacques à agir, ça sera un bras de fer entre l'Argenté et l'enseignement catholique pour éviter la fermeture du lycée. Alors cette fermeture n'est évitée que partiellement. L'Argenté garde le lycée d'enseignement général ouvert avec une seule série dont personne ne veut, personne ne sait ce qu'elle vaut, c'est la série B. La série littéraire et la série scientifique sont pour Villapia, et Villapia va très vite apparaître comme étant le symbole de la modernité, du dynamisme, de l'action. Et l'Argenté se retrouve, on va dire, à évaluer les dégâts, puisqu'on récupère la série technique, dont personne ne sait trop ce qu'elle signifie en investissement, en formation, en débouché. Ce sont les séries G1 et les séries G2. Ces séries, quand elles s'ouvrent, elles amènent immédiatement avec elles l'arrivée des garçons. Donc ça, c'est le troisième élément, c'est la mixité. N'oubliez pas, une école de filles bien protégée, on va maintenant avoir une école de garçons, dont on ne sait pas trop d'où ils arrivent, dont on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Et là, c'est un petit peu compliqué, je dois dire. Les garçons vont bousculer les habitudes, mais sachez que les sœurs sont très impatientes de les voir arriver. Elles ne sont pas du tout dans le rejet, et certaines sœurs vont voir là une façon de relancer l'Argenté. Alors, juste à titre d'anecdote, il y a une sœur qui est surveillante au lycée, qui s'appelle Sœur Marie-Noël, qui va jouer des parties de mouche acharnées avec les élèves. La popularité était assurée, et les garçons vont très très vite, bien entendu, faire leur trou dans l'Argenté. Mais pour beaucoup, à Bayonne, ce qui se dit dans Bayonne, c'est que l'Argenté, c'est fini. C'est fini, c'est un établissement de seconde zone, et l'Argenté va devoir ramer, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Parce que là, tout va être changé. Le corps professoral ne peut plus être dominé par les religieuses, puisque ce sont des séries qu'elles ne connaissent pas, puisque les formations sont souvent très très nouvelles. Et donc on va voir arriver, à partir de 1970, des jeunes enseignants frais et moulus de l'université, qui sont tous avec des licences, des bac plus 3 ou des bac plus 2, qui n'ont pas passé de concours parce que le système administratif ne le permet pas encore à ce moment-là. Et ces enseignants, ils vont découvrir le métier ensemble dans l'Argenté. Ils sont jeunes, je ne vais pas dire qu'ils sont beaux, mais on pourrait presque le dire, et surtout, ils amènent un vent de fraîcheur. Enfin, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, vous imaginez que de ce bloc monolithique, on va voir arriver de la diversité et de la variété. Et cette génération qui arrive a vécu les 68. Elle sort de la fac, les remous sont là, donc la mentalité qui s'introduit à l'Argenté est totalement différente. Remettre en cause un système, fut-il centenaire, fut-il ecclésiaste, ça ne leur posait pas de problème. Donc il y a une liberté qui entre à l'Argenté avec cette nouvelle génération de profs. Et ça rentre dans tous les sens. Alors, un des éléments, on va dire, symboliques, les filles avaient lutté pied à pied pour obtenir le droit de porter le pantalon, et ce droit leur sera accordé finalement en 1970. Elles avaient lutté pied à pied pour avoir la cigarette, elles n'auront pas la cigarette en 1970, parce que les sœurs résistent encore, et puis le maelstrom fera que les garçons arrivant, les cigarettes sont arrivées avec. Voilà, donc vous voyez des petits éléments qui sont là, mais surtout, cette nouvelle génération de professeurs va entraîner une nouvelle manière de voir l'éducation. Désormais, au duo qu'on a vu tout à l'heure, Mère Gertrude, Mère Saint-Jacques, va se substituer un autre duo. Parce que Mère Saint-Jacques va jouer à fond la carte du partenariat avec les laïcs. Et pour l'Argenté, il y a un professeur qui va jouer un rôle clé. Ce professeur s'appelle Michel Saint-Genès, il est professeur de français, il est landais, ce qui pour une communauté d'origine landaise est une qualité supplémentaire. Et donc, il va être très vite, pour Mère Saint-Jacques, un soutien, un appui et surtout un élément qui va être très novateur. Alors, quelles sont les innovations qui arrivent à ce moment-là? Une autre année clé, c'est 1978, puisqu'en 1978, l'organisation de la gestion se structure, une association se crée, et surtout ça permet de séparer totalement cette fois-ci les comptes de la communauté et les comptes de l'école, parce que les caisses étaient parfois diversement gérées et il y avait une certaine porosité, on va dire ça comme ça. Donc là c'est clair. Deuxième élément, en 1978, on crée une association propriétaire. dans laquelle les sœurs, à titre individuel, sont membres, ce qui permet, surtout aussi en 1978, si vous vous rappelez le contexte politique de l'époque, on craint le retour des socialistes et le retour d'une nationalisation. La vieille crainte d'un État père fouettard est toujours derrière. Donc on veut mettre à l'abri les biens immobiliers et donc on crée une association immobilière. C'est surtout qu'à ce moment-là, donc, les choses sont claires et depuis 1978, l'Argentée vit sous ce régime-là, c'est la même chose. Les laïcs sont membres des associations, attention, Mère Saint-Jacques a une telle personnalité que les laïcs sont priés de faire ce que Mère Saint-Jacques souhaite. Bon, voilà, et puis petit à petit, les choses vont s'autonomiser. Alors, le partenariat qui se crée va aussi se développer au niveau pédagogique. Et Michel Saint-Genès va donner à l'Argentée là, une couleur pédagogique très particulière, très novatrice, qui va se décliner par des dispositifs d'aide, de soutien. Les 10% sont réactivés sous forme de dispositifs qu'on appelle les heures banalisées. Les professeurs passent des heures à donner aux élèves d'autres moyens d'apprendre, d'autres éléments d'approche. Et cette innovation pédagogique va très vite rayonner autour. L'Argentée, qui avait déjà une certaine notoriété, devient véritablement un phare pédagogique. Et Michel Saint-Genès poursuivra sa carrière dans l'animation pédagogique régionale, puis ensuite nationale. Donc voilà tout ce vent nouveau qui arrive. Au niveau pastoral, puisque le projet de départ, c'est bien une éducation chrétienne pour les filles. Vatican II est passé par là. Il n'y a pas que Vatican II qui est passé par là. Il y a le matérialisme ambiant qui se met en place, la société de loisirs qui est en train de naître, la société de consommation qui explose. Mais les aumôniers qui arrivent là ont une qualité très humaine, très personnelle, qui vont donner à la pastorale un aspect extrêmement individualisé. Et si on comptait comme titre de référence le nombre de mariages d'anciens élèves que les aumôniers de l'Argentée ont fait, vous seriez étonné. Parce que cet aumônier-là, je voudrais citer l'abbé Aguerre dans un premier temps, et ensuite l'abbé Fuchs, vont entraîner les jeunes dans d'autres formes de découverte de l'Évangile, souvent très actives, au travers de pèlerinages, au travers d'actions caritatives. On sort, on n'est plus dans une approche religieuse, liturgique, fermée, un peu poussiéreuse, on ouvre les portes. Là aussi, le partenariat avec les laïcs se fait avec une équipe de choc qui va entraîner des générations de jeunes. L'abbé Fuchs est accompagné d'un laïc qui s'appelle Paul Payou. Et cette équipe-là, laïc-prêtre, va faire merveille et va donner là aussi à l'extérieur de l'Argentée des références qui seront toujours imitées, jamais égalées, bien entendu. Donc quand en 1989, très précisément, en juin 1989, Mère Saint-Jacques, qui est devenue entre-temps Sœur Saint-Jacques, quitte l'établissement. L'Argentée a dépassé la barre des 1000 élèves, il arrive juste à 1000 élèves. L'établissement est solide, les constructions ont accompagné le développement, que ce soit un CDI, que ce soit un foyer élève, que ce soit aussi la création d'une école primaire, parce que le primaire était le parent pauvre dispersé dans les établissements. Donc c'est un établissement qui est là, bien en place. Quand elle quitte l'établissement, elle ne l'a pas laissé comme ça. Vous voyez sur la diapo, Michel Saint-Genès avait été nommé directeur du collège. C'est le premier directeur laïc de l'établissement. Alors là, je vais être obligé de parler de moi. Je lui ai succédé en 1983 et pendant 6 ans, j'ai été à l'école de Mère Saint-Jacques. En 1989, les Ursulines me confient la direction de l'ensemble de l'Argentée. On réunifie collège et lycée sous une seule direction pour assurer une homogénéité dans le fonctionnement. Une unité pédagogique s'autonomise progressivement, c'est le primaire. Le primaire va être successivement occupé par plusieurs directrices, Madame Forsens, Monsieur Placé, Madame Gasquet, Madame Eyart et actuellement Madame Labarthe qui est dans la salle. Donc là, le renouvellement est plus rapide sur le primaire, mais progressivement, le primaire s'autonomise pour devenir une partie beaucoup plus individualisée aujourd'hui qu'elle ne l'était même en 1990. La gestion de l'établissement, jusqu'à présent, c'était les sœurs, c'est clair. À partir des années 90, quand les sœurs ne sont plus là, comment ça fonctionne? Il faut quand même avoir deux ou trois éléments. La direction laïque, s'appuie sur des conseils, conseils de direction, conseils pastoraux, conseils d'établissement. Les Ursulines ne disparaissent pas du paysage. La prieure est membre de droit de ces instances, mais là, progressivement, elle n'a plus qu'un rôle de conseil, de participer aux échanges. Elle n'est plus décisionnaire. Et elle va se situer de plus en plus sur les valeurs éducatives pour voir si ces valeurs éducatives sont bien en phase avec les orientations de départ. Les années 90, c'est les années où on parle beaucoup du charisme. C'est-à-dire ce charisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui à l'origine avaient été l'élément clé de la fondation, comment a-t-il traversé les siècles et comment aujourd'hui est-il mis en œuvre? Donc, en 1990, l'établissement est solide et pourtant, l'établissement voit les sœurs vieillir, disparaître progressivement du paysage. Et il y a une date sur laquelle je voudrais revenir, c'est 1981. Elle ne concernait pas l'école, donc je n'en ai pas parlé jusqu'alors, elle concernait la communauté. La communauté religieuse décide, en 1981, de rejoindre l'Union romaine des Ursulines, donc un réseau congréganiste, alors que jusqu'à présent, cette communauté était une communauté indépendante, autonome, qui n'était liée qu'à l'évêque. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir de cette date-là, ce n'est pas simplement les religieuses qui vont dialoguer entre elles, ce sont les établissements dans lesquels elles sont qui vont être, venir enrichir la réflexion de l'Argenté. Au départ, c'est lié à une seule province, la province sud. Alors les établissements avec lesquels l'Argenté dialogue sont Pau, Digne, Lyon, Bonloc, Montauban, je crois que je n'en ai oublié aucun. Cette province sud va disparaître parce que les sœurs progressivement voient leur nombre se réduire. Toutes les provinces françaises, il y en avait trois, vont fusionner pour former une province unique. Mais ce travail a été préparé en amont dès 1995 où à Bayonne, à l'Argenté, un colloque a réuni des représentants de tous les établissements de France pour essayer de bâtir quelque chose en commun. Se crée à ce moment-là le centre Angèle-Mérici. Ce centre Angèle-Mérici préfigure et prépare l'unité de la province et surtout prépare l'après-communauté, l'après-présence des sœurs dans les établissements. Donc, de la petite communauté isolée à 1990-2000, vraiment, c'est une révolution complète. Désormais, on ne parlera plus de communauté, forcément, il y a un mot qui fait son apparition, c'est le mot de tutelle. Alors c'est un mot que l'enseignement catholique va largement susciter et développer, tout simplement pour dire aux congrégations, attention, si vous voulez garder votre originalité, travaillez sur vos fondateurs, travaillez sur les textes qui vous ont permis d'exister et faites-les vivre. Et ce mot d'ordre va bien être écouté et être mis en œuvre, ce qui fait que en 2012, la province unique va créer une autre manière de travailler avec les laïcs. Cette autre manière, c'est tout simplement un groupe de délégués de tutelle dans un premier temps, et puis depuis 2017, je crois bien que c'est 2017, un délégué de tutelle unique qui est mandaté par la provinciale, on va dire celle qui coordonne toutes les communautés, et désormais, on va dire, le charisme des Ursulines est porté par des laïcs et non plus par les sœurs. Dans le concret, cette communauté dont on a vu le parcours a laissé la place à un autre système, et cet autre système a été bâti en partenariat avec les laïcs et les religieuses. La photo que vous voyez là-haut, c'est une photo qui représente une réunion de chefs d'établissement en Italie, où nous avions tous été invités à travailler ensemble. Donc, un esprit de réseau se met en place. L'Argenté y a joué un rôle particulièrement important et Michel Saint-Jeunesse va être le premier directeur du centre Angèle-Mérici. On retrouve son rôle de pionnier. Tout cela va de pair avec quoi? Avec une ouverture. Ces murs que nous avons vus à l'Argenté, au départ, les premières photos que vous verrez dans le livre sont frappantes, ils s'ouvrent, ils tombent. Même les entrées de l'Argenté sont ouvertes progressivement. Et l'Argenté va jouer la carte de l'ouverture au monde, avec beaucoup, beaucoup de réalisations de caractère linguistique. On peut citer des partenariats avec les États-Unis, avec l'Espagne, avec l'Irlande. On peut citer aussi, très vite, l'Argentée va, dans les années, au début des années 90, jouer la carte de l'ouverture européenne. On est à ce moment-là, rappelez-vous, dans l'enthousiasme lié à la chute du mur de Berlin. Donc on espère bien sûr qu'une nouvelle Europe va naître. Et l'Argentée va très vite aller, par exemple, en Tchécoslovaquie, c'était la scission n'avait pas encore eu lieu, pour amener des élèves. On a des contacts avec le Parlement européen. Donc il y a un souci d'ouverture. Donc cette dynamique qui était entamée bien avant se prolonge et se prolonge largement. On peut citer aussi l'accueil d'élèves différents. Alors ça se passe par petites touches progressivement, mais dans la logique de ce que je vous ai indiqué, de l'accueil de chacun, il était normal, presque naturel, qu'une ouverture vers le handicap puisse se faire. Et les partenariats, je crois que M. Gall en a cité tout à l'heure, sont importants. L'Argentée ouvre considérablement sa pédagogie sur l'extérieur à travers des partenariats avec les associations. Donc c'est un établissement qui est extraordinairement actif. Et cette activité, plus elle augmente, plus on voit la fin de la présence des religieuses dans les structures et dans l'organisation de l'école. Petit à petit, les religieuses s'en vont, alors comme ça, à titre d'hommage. Sœur Marie-Carmen est la dernière religieuse surveillante d'internat. Sœur Marie-Brigitte est la dernière sœur surveillante d'externat. On peut citer les deux dernières enseignantes, on va dire historiques, je laisserai une parenthèse après, Sœur Marie de la Trinité, qui est décédée cette année, professeure de français, qui a marqué pas mal d'élèves, et puis Sœur Marie Gabrielle, l'inénarrable Gabiche pour ceux et celles qui l'ont connue, qui a fait frémir des dizaines d'élèves bâillonnais qui ont passé beaucoup de temps les jeudis après-midi ou mercredi après-midi pour reprendre le concours. Donc c'était carrément une légende vivante. Quand ces sœurs partent, elles sont là depuis tellement longtemps que c'est véritablement, comment dire, un monument qui disparaît. Bien, voilà. La curiosité, c'est que plus on approche des années 2000, plus les sœurs disparaissent, plus elles sont populaires, plus elles sont importantes. Pour les élèves, moins il y en a, plus elles vont représenter quelque chose qui tient à la fois de la grand-mère, qui tient à la fois de la confidente, qui tient à la fois du folklore, je ne sais pas trop comment le situer. Voilà, alors bon, bien sûr, pour ceux qui l'ont connu, je veux citer Sœur Saint-François, qui est une infirmière pittoresque, et très très indépendante, là aussi des anecdotes peuvent fleurir. Sœur Marie-Brigitte aussi était pittoresque, puisqu'elle dormait pendant toutes les surveillances assez copieusement. Et quand elle est décédée tragiquement, ça a été un élan vraiment de solidarité de la part des anciens élèves. Et Sœur Marie-Carmen, dont le rire résonne encore dans les oreilles de générations d'élèves. Voilà. Désormais, les sœurs ont quitté le champ de l'enseignement, elles restent un petit peu sur la pastorale, mais elles quittent progressivement le quotidien. C'est un autre profil qui caractérise le corps professoral, mais j'ai envie de dire, c'est le lot commun de tous les établissements. L'Argentée n'y échappe pas, la laïcisation est complète, les parcours de formation sont très diversifiés, les enseignants qui arrivaient dans les années 70 étaient à 90% issus de l'enseignement catholique. Ça n'est plus le cas du tout, je ne sais pas si on pourrait faire ce pointage-là. Donc l'approche par rapport à la sensibilité spirituelle n'est plus du tout la même. La diminution de clergé et des religieuses donne des soucis au directeur. Comment faire pour surmonter ces éléments-là? Et on peut dire aussi qu'il y a l'idée pour les jeunes enseignants que la démarche religieuse est d'abord une démarche personnelle. Donc le côté collectif, c'est certainement un peu amoindri. Il y a moins de célébrations. Elles ne correspondent plus à l'esprit du temps. Il faut prendre acte de tout ça, même si essayer de se mettre en place d'autres manières de vivre. Quels sont les éléments qui restent dans l'originalité de l'Argentée? D'abord, le panel de formation, maternelle, primaire, collège, lycée d'enseignement général, lycée technique, deux BTS. C'est unique sur le BAB, dans l'enseignement catholique, et ça explique aussi que ce soit le plus gros établissement du BAB. Je ne me trompe pas, je pense, je me tourne vers le directeur. Donc, ces 80 petits élèves à l'abri de leur mur sont devenus une machine, un établissement structuré important. Sinon, le reste se normalise, entre guillemets. La carte des formations suit étroitement la carte des formations et les évolutions de l'éducation nationale. Donc l'Argentée doit faire la synthèse entre les orientations de l'éducation nationale, les orientations de l'enseignement catholique et les orientations de la tutelle. Donc l'argenté, c'est le résultat d'une synthèse permanente qui doit se mettre en place. Je ne voudrais pas terminer ce tableau sans parler des éléments immobiliers. Dans les années 90-2020, il y a deux éléments qui me paraissent à noter, enfin trois on va dire. Un, c'est la remise aux normes d'un établissement qui, on l'avait vu, avait été construit à l'économie de manière parfois limite, puisque on a des plafonds qui sont effondrés en 1980, puisque, etc. Bon, donc des escaliers de secours qui étaient un défi à la sécurité. Donc la mise aux normes est achevée. Un établissement qui a dû créer aussi un self parce qu'il n'y avait pas de self digne de ce nom, l'effectif avait trop bougé, donc ça a donné lieu à une construction importante avec une salle de sport à l'étage. Voilà, et puis je voulais terminer quand même par une dernière opération qui montre la place de l'argenté dans le secteur concernant l'ancien cinéma Le Pax pour les Bayonnais à côté de l'église de Narac, donc où l'école Saint-Léon fonctionnait dans des conditions qui n'étaient pas terribles. Cette école primaire de quartier limité a fusionné avec l'argenté, ce n'était que raison. On ne pouvait pas avoir deux écoles primaires rivales à 150 mètres de distance. Donc tout cela a finalement été unifié et donc ce bâtiment a retrouvé une nouvelle vie grâce à l'intervention de l'argenté qui s'est mis en partenariat avec une crèche à l'Arche de Noé. Bientôt une salle des sports qui viendra compléter tout ça pour vous dire que le dynamisme est bien ancré, bien acquis, que l'argenté a quand même continué à progresser. Ce qui m'amène à la conclusion, tout a changé entre 1920-2020, le contexte. Ce qui a changé, c'est que l'Église n'est plus triomphante. Monseigneur Gieure aurait du mal à trouver les moyens de la politique qu'il a menée. Le projet d'origine de l'école s'est considérablement adapté. On peut se poser des questions de savoir est-ce qu'il s'est bien adapté. Mais toujours est-il que l'argenté, petit pensionnat privé, est devenu une structure ouverte sur la ville avec un effectif important. On pourrait se dire, les sœurs s'en vont et symboliquement, le départ des sœurs est acté pour cette année. Est-ce que c'est un échec pour cette communauté de disparaître alors qu'elle existait donc depuis 1834, c'est sûr que ça fait, historiquement, ça fait mal au cœur de voir cette permanence finalement disparaître. En fait, elle ne disparaît pas, elle se fond dans la congrégation, quelque part elle revient aux sources, dans la congrégation des Ursulines. Et puis, bon, après tout, le centenaire, c'est une bonne occasion de faire le point. J'espère que ce panoramique vous a permis de voir quelques lignes de force. Je ferai même une citation d'une auteure qui s'appelle Nathalie Sartou-Lajus, dans un petit ouvrage qui s'appelle « Le geste de transmettre ». Elle dit ceci, « La transmission ne relève pas de la reproduction du même, mais de l'engendrement d'un autre qui suscite toujours la surprise, source autant d'émerveillement que de déconvenue. J'espère vous avoir montré ce soir que l'argenté en 2020 n'était pas la reproduction de 1920, mais une réalité nouvelle où émerveillement et déconvenue s'entrelacent, comme dans toute réalisation humaine. » Donc voilà ce panorama de l'établissement. Alors,
l'argenté, 100 ans d'histoire à Bayonne, tel est le thème de la conférence que vous venez de suivre. Elle était donnée par Dominique Iribarin, professeur d'histoire retraité et ancien directeur de l'établissement. Il était enregistré le 18 septembre 2020 au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne.